Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Ravi de vous retrouver après cette petite pause pour les festivités de Nouvel An qui nous permettent déjà de vous souhaiter à tous et toutes une très bonne année. Puisqu'on en est dans les petites infos de la rentrée, eh bien j'annonce aussi qu'à la fin de cette semaine, je vais disparaître de l'antenne pendant un mois. Et voilà, j'ai la chance d'aller participer à un tournage de documentaire sonore au Brésil. Donc vous n'aurez plus de nouvelles du monde jusqu'aux vacances de février. Mais si tout va bien et qu'aucun problème technique ne se présente sur place, vous aurez quand même des nouvelles du Brésil. Je vais essayer de faire ça une fois par semaine. Petite chronique, histoire de raconter un petit peu ce qui se passe, l'actualité vue de là-bas. Il s'en passe des choses assez intéressantes au niveau politique et écologique, rien que ça, voilà. Donc je vais aller me faire un petit peu dorer la pilule au soleil, au chaud, pendant un mois, donc vous n'aurez plus les joies d'écouter toutes ces mauvaises nouvelles le mardi et le jeudi à 12h30 sur Radio Escapade. Cela étant dit, si une autre nouvelle qui vient de tomber après un suspense intenable, et bien ça y est, on a un nouveau Premier ministre et c'est Gabriel Attal. Il a fallu un petit peu de temps pour visiblement le nommer. Je pense qu'ils étaient en train de cacher la fève dans la galette des rois pendant que le jeune Premier attendait son tour désespérément. Bah ça y est, il a eu la fève. Donc c'est lui le Premier ministre. Voilà, Gabriel Attal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon, on va commencer ces nouvelles du monde un petit peu de manière un petit peu plus sérieuse. Vous allez voir, on va même pas trop rigoler du tout. Et oui, car c'est 2024 qui commence fort, on est bien, a priori, en Italie en tout cas. Des centaines de militants ont fait le salut fasciste, certains y voient même un salut nazi dans la rue. C'était passé à Rome. C'était ce dimanche 7 janvier. Le journal La Repubblica s'émeut d'ailleurs, on se croirait en 1924 à l'apogée de l'ère fasciste. C'était donc bien ce dimanche que des centaines de saluts fascistes ont pu être observés à Rome, à la vue de tous, filmés d'ailleurs, des vidéos à vous glacer le sang circulent sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur la Via Acca Larentia, devant l'ancien siège du MSI, le mouvement social italien, qui, contre toute attente, malgré son nom, était le parti néofasciste qui a été créé après la mort de Benito Mussolini. Cette manifestation donc filmée par des vidéos d'habitants du quartier et on y voit une marée humaine, hein, une marée humaine noire, des hommes tous alignés, la plupart crâne rasé, se tiennent bien droit, debout, en silence. Garde à vous, hurle l'un d'eux et tous s'exécutent, puis disent pour tous les camarades tombés et tous répondent présent, donc presente d'une même voix, tandis que des centaines de mains tendues se lèvent dans un silence à vous glacer le sang. J'ai récupéré un petit peu le son si vous voulez. Voilà, les centaines de militants qui étaient présents ce dimanche n'étaient pas là par hasard, hein, puisqu'ils commémoraient la mort à ce même endroit de deux militants de cette organisation de jeunesse du MSI, donc groupe fasciste, parti néo-fasciste créé après la mort de Mussolini. Et la mort de ces deux militants s'est faite au cours d'un attentat revendiqué par l'extrême gauche. C'était en 1978. À une époque, à ce qu'on appelait les années de plomb, alors que l'Italie était secouée par de très nombreuses violences politiques, que ça soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et un troisième jeune militant d'ailleurs du MSI était mort, lui, dans des affrontements avec la police. Le rassemblement de ce dimanche soir était donc pour honorer ces trois morts, camarades de ces jeunes fascistes. Il réunissait, peut-on lire, des nostalgiques, des vieux militants des années 70, mais aussi de nouveaux adhérents à l'extrême droite. Mais ce qui a choqué plus encore que ces images de toute la classe politique italienne et même à l'international, eh bien c'est le fait que ce rassemblement ait eu lieu le même jour avec un autre qui avait eu lieu plus tôt le dimanche, donc un rassemblement officiel cette fois. En fait, il y a eu des commémorations officielles par rapport à ces trois morts, auxquelles ont participé notamment le président de la région, Latium, il s'appelle Francesco Rocca, ainsi que le conseiller à la culture de la ville de Rome, lui s'appelle Miguel Gotor. Francesco Rocca a lui salué la mémoire de ces garçons tués au nom de leurs idées et convictions politiques, afin que cela ne se reproduise plus. Et le deuxième, le conseiller à la culture, lui a tenu à rappeler que le militantisme politique ne peut jamais justifier la violence et les fusions de sang. Donc des prises de parole publiques de responsables politiques. Depuis cette commémoration et notamment le fait que les vidéos aient fait le tour des réseaux sociaux, toute la classe politique italienne s'indigne. Des saluts romains à la commémoration de Acca Larenzia, à la présence du président de la région Latium. Commémorer les morts est une chose, donner une couverture institutionnelle à un rassemblement fasciste en est une autre. Réagissait par exemple Emanuela Droghei, la conseillère régionale et organisatrice du secrétariat du Parti démocrate. On est sur l'échiquier centre-gauche de la politique italienne. L'héritage du dictateur Benito Mussolini continue de diviser en Italie, où l'exhibition en pleine rue de symboles nazis ou fascistes n'est pas chose rare. Là, j'ai repris une petite formule piochée chez BFM. Toujours l'art de dire le moins pour dire le plus. Si on revient donc à la réaction de la classe politique italienne, les signataires du PD, donc du Parti démocratique, se sont également saisis de cette affaire en interpellant directement le ministre de l'Intérieur, la Première ministre, ainsi que le ministre de la Justice. En fin de matinée ce lundi, déjà empêtré dans la polémique, le secrétaire de Forza Italia, là on est au centre droit, et ainsi qu'il est également ministre des Affaires étrangères du gouvernement de coalition, a tenté de temporiser. Donc lui, il s'exprime au nom du gouvernement de Giorgia Meloni. « Nous sommes une force qui n'est certainement pas fasciste, dit-il. Nous sommes antifascistes. Les responsables de ce comportement doivent être condamnés de tous, comme doivent être condamnées toutes les manifestations de soutien à la dictature. Il y a une loi qui prévoit qu'il n'est pas possible de faire apologie du fascisme dans notre pays. » Visiblement, il manque de gens pour faire appliquer cette loi. Voilà, ça c'était les mots, donc... du ministre des Affaires étrangères, du gouvernement, de coalition centre-droit et droite nationaliste, conservatrice et souverainiste, donc gouvernement de Giorgia Meloni. La controverse est loin de s'apaiser. Le vice-président de la Chambre des députés, Sergio Costa, qui fait lui partie du mouvement 5 étoiles, a annoncé qu'il allait déposer plainte auprès du parquet de Rome pour déterminer si d'éventuels délits ont été commis, parmi lesquels l'apologie du fascisme, durant cette commémoration. Dans la foulée, l'antiterrorisme italien, la DIGOS, c'est un peu comme la DGSI chez nous, a lui confirmé avoir transmis un rapport au parquet de Rome. Ce sont donc les magistrats qui décideront ou non de l'ouverture formelle d'une enquête judiciaire. Giorgia Meloni, l'actuelle chef du gouvernement italien, avait elle-même adhéré dans les années 90 à ce parti mouvement social italien, donc parti néofasciste, le MSI, avant de rejoindre, quand il a été dissous, un parti héritier de ce même MSI qui s'appelle l'Alliance Nationale. Elle fait maintenant partie maintenant membre du parti d'extrême droite Frères d'Italie, et elle qualifiait dans ses jeunes années Mussolini de bon politicien, mais elle a nié lors de son arrivée au pouvoir toute proximité avec le fascisme. Côté France, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure qui s'exprimait sur X en disant « Giorgia Meloni, un an et deux mois plus tard, voilà les pulsions fanatiques que libère l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir ». Et d'ailleurs, un article dans Libé auquel j'ai pas pu accéder parce que j'ai pas les codes, titrait que de jeunes Français, certains liés à l'écosystème du Rassemblement National, on peut appeler la GUD Connexion, ont aussi pris part au rassemblement qui a vu donc ces centaines de militants tendre le bras dimanche dans la capitale italienne, à savoir que ce rassemblement est quand même organisé tous les ans sous les auspices de Casa Pound, un gros groupuscule identitaire très proche donc notamment de militants du GUD en France. Voilà.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Allez, on est bien là. Aujourd'hui, donc, ce mardi 9 janvier, s'ouvre le procès aussi de l'affaire Théo. C'était il y a 7 ans l'interpellation violente de Théodore Louaka. Ça se passait à Aulnay-sous-Bois. Trois fonctionnaires de police doivent comparaître pendant 10 jours, donc d'aujourd'hui jusqu'au 19 janvier, devant un jury populaire. Le principal accusé de ces policiers est l'auteur du coup de matraque qui a grièvement blessé le jeune Théo dans la zone rectale. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. C'était le 2 février 2017, donc à Aulnay-sous-Bois. 4 policiers de la brigade spécialisée de terrain, la BST, descendent de voiture pour contrôler des jeunes à proximité d'un point de deal. L'un d'entre eux, âgé de 22 ans, leur donne du fil à retordre, visiblement. Il décide de l'interpeller. C'est donc le fameux Théo, Théodore Louaka. Il le ramène au commissariat. Mais lorsqu'il arrive, celui-ci est grièvement blessé. C'est un coup de matraque télescopique qui a traversé son caleçon et lui a perforé la zone rectale. Il saigne abondamment et doit être opéré d'urgence. Pour ce jeune homme, c'est le début d'années de souffrance, de rendez-vous médicaux, de combats judiciaires et médiatiques. À son corps défendant, donc, Théo devient un symbole des violences policières. Et donc, 7 ans après ces faits, 3 des 4 policiers qui étaient intervenus ce jour-là doivent comparaître. Ça se passe à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Et c'est donc du 9 au 19 janvier. Le principal accusé est l'auteur de ce coup de matraque, il s'appelle Marc-Antoine. Il a 34 ans, il est poursuivi pour des violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique, avec armes et en réunion, ce qui a entraîné une infirmité permanente. Il risque donc, lui, je vous le disais, jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Pour ses 2 autres collègues, un âgé de 43 ans et l'autre de 31 ans, eux sont poursuivis pour d'autres violences aggravées qui ont été également commises sur le jeune Théo lors de son interpellation. Ils encourent, eux, respectivement 10 et 7 ans de prison. Ils sont tous, bien entendu, présumés innocents, jusqu'à preuve du contraire. Et quant au 4e policier de l'équipage, âgé aujourd'hui de 35 ans, il a bénéficié d'un non-lieu au terme de l'instruction. Alors, c'est les colonnes de Libération qui nous rapportent qu'à bien des égards, justement, cette affaire Théo est unique. Déjà parce que la nature de la blessure a tout d'abord valu au policier coupable d'être mis en examen pour viol, ce qui est une qualification pénale abandonnée depuis, on va en reparler. Ensuite parce que Théo est la seule victime de violences policières à avoir jamais reçu la visite d'un président de la République, c'était François Hollande à l'époque dans sa chambre d'hôpital. Et aussi parce que son avocat de l'époque, un certain Éric Dupond-Moretti, a depuis dû passer la main à son ancien associé Antoine Veil, puisqu'il est devenu ministre de la Justice entre-temps. Et enfin parce que les 4 policiers de l'équipage, surtout, ont été suspendus sur le champ, même si tous ont depuis été réintégrés. Alors depuis le premier jour, les policiers, eux, se défendent de toute violence illégitime. Ils justifient donc l'interpellation du jeune Théo par son attitude pendant le contrôle, à savoir qu'il s'est interposé, a attrapé un policier par les manches et en a frappé un autre à la pommette. Ensuite, ils expliquent chacun de leurs gestes par la résistance du jeune homme qui se débattait pour éviter d'être menotté, tandis qu'ils intervenaient dans un contexte hostile. Reste que la blessure en question est quand même assez précise. En tout cas, pas suffisant pour convaincre la juge d'instruction qui leur reproche notamment des gifles, un coup de poing dans le ventre, des giclées de gaz lacrymogène et d'autres coups sans motif. Tout cela quand le jeune Théodore Louaka était calme, au sol, puis même menotté. Déjà, donc, rien que ces violences qui sont visibles sur les images de vidéosurveillance, toutes ces violences lui ont valu 15 jours d'ITT. La partie civile en a dénoncé d'ailleurs d'autres qui sont produites hors champ de la caméra et dans la voiture qu'il ramenait au commissariat. Mais malheureusement, faute d'images, ces violences n'ont pas pu être étayées. Et si on revient un petit instant sur la qualification de viol qui a été retenue donc au début de l'affaire et qui a depuis été écartée, eh bien plusieurs raisons à ça. Je vous laisse aller éventuellement lire les détails si vous trouvez ça convaincant. En tout cas, ça reste quand même un geste très violent et a priori peu enclin à être fait de manière accidentelle. Quoi qu'il en soit, il est probable donc que le jeune Théo subisse suite à cette blessure des séquelles permanentes d'un niveau plus ou moins important. C'est ce qu'a expliqué le renvoi devant les assises du principal accusé, les 2 autres fonctionnaires étant jugés lors du même procès, donc par souci de cohérence. Donc il est rare que des policiers soient envoyés devant une cour d'assises pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, au terme de 3 années d'instruction, dont la première a permis de boucler le principal des investigations et des auditions, et les 2 autres années ont été exclusivement consacrées aux expertises médicales. Et bien, au terme de ces 3 ans, la juge a donc rendu son ordonnance de mise en accusation. C'était en novembre 2020. Depuis donc novembre 2020, le défenseur des droits réclamait des poursuites disciplinaires aussi contre les policiers mis en cause, donc qu'ils puissent avoir des sanctions dans le cadre de leur travail. 2 d'entre eux sont passés en janvier 2021 devant un conseil de discipline, qui a juste préconisé un blâme. Le ministère de l'Intérieur, lui, n'a pas encore pris de décision définitive. Mais ça, c'est assez normal, puisqu'il est coutume que dans les affaires de violence, l'administration préfère attendre l'issue du procès pour pouvoir se prononcer, même si, en théorie, les deux procédures sont censées être indépendantes l'une de l'autre. Voilà, ça commence donc aujourd'hui, et on en saura plus d'ici une dizaine de jours.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, on change de sujet, on part à la neige, enfin, ce qu'il en reste. Et notamment avec de nombreuses manifestations dans les Alpes contre l'organisation et la candidature aux Jeux Olympiques d'hiver. C'était ce 6 janvier. Des rassemblements festifs ont eu lieu dans plusieurs villes des Alpes françaises contre les JO d'hiver prévus pour 2030. Le reportage du journal Reporter s'est lui attaché à la mobilisation qui a eu lieu à Saint-Martin-d'Hères en Isère, pas loin de Grenoble. Certains de ces manifestants étaient en combinaison de ski bariolé, fluo, d'autres recouverts d'une serviette de plage, voilà, on aurait dit un petit peu une affiche débronzée. Si le réchauffement continue, il faudra plutôt être en maillot qu'à ski, plaisantait d'ailleurs Claire, âgée de 63 ans, présente sur ce rassemblement. Une cinquantaine de personnes se sont rendues ce samedi 6 janvier donc, au rassemblement festif qui était à Grenoble ainsi que dans d'autres villes pour protester donc contre l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver. Avec le mot d'ordre « JO d'hiver 2030, ni ici, ni ailleurs ». Cet appel a été lancé par un collectif « No JO », relayé ensuite par les soulèvements de la Terre. Ainsi, à Grenoble, la manifestation n'a pas pu être déclarée et les personnes présentes n'ont pas eu l'autorisation des forces de l'ordre de descendre sur la chaussée. C'est donc le visage le plus souvent caché sous des masques de ski ou des lunettes que les manifestants se sont contentés de faire du bruit et de la musique aux abords d'un rond-point de la ville de Saint-Martin-d'Hères. On est à deux pas de la rocade qui fait le tour de Grenoble. Un des militants qui s'appelle Benoît, il résume ainsi « On s'oppose à ces jeux pour des raisons écologiques ». Les deux régions organisatrices, à savoir Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, assurent cependant que les Jeux seront les plus sobres que les précédents et ils proposent la candidature de deux régions et non pas d'une seule ville, ce qui permet pour eux d'étaler un petit peu justement les dégâts. Mais balaye ce militant, nous n'avons pas la même vision de l'écologie. Nous préférerions que l'argent aille aux petites stations qui souffrent déjà pour permettre leur transition, plutôt que vers les grands domaines qui vont utiliser l'argent pour faire encore plus de canons à neige. En effet, Renaud Muselier, le président de la région PACA, a estimé le budget de 1 à 1,5 milliard d'euros pour les infrastructures. Et la question de l'eau, qui est également indispensable pour ces fameux canons à neige, inquiète aussi un autre de ses militants, Francis, futur médecin, lui venu en roller et bâton de ski. Ces investissements, dit-il, vont encore perturber le cycle de l'eau. Je ne sais pas s'il faut en finir avec les Jeux Olympiques, c'est une source de joie pour beaucoup de monde, mais ils ne peuvent pas autant consommer de ressources. Une autre militante dit « Il faut qu'on accepte que le 21e siècle marquera la fin du ski ». Elle est plus radicale, elle est venue du Vercors d'ailleurs, cette jeune Juliette, un massif de moyenne montagne où l'enneigement a été notamment très faible cet hiver. Depuis la fin novembre 2023, la candidature de la France pour l'organisation des JO, c'est la seule en lice au monde. Les Alpes françaises ont donc beaucoup de chance de se retrouver à organiser une nouvelle fois la compétition internationale. Il y avait déjà eu Chamonix en 1924, Grenoble en 68 et Albertville en 1992. On croit toujours qu'il est possible d'arrêter ce projet, assure le Benoît qu'on a déjà croisé avant. S'il y a une vraie contestation populaire, le comité international olympique ne pourrait ne pas aimer. Ces manifestants s'insurgent aussi contre un manque de démocratie dans la décision d'organiser ces Jeux. Pour prouver que le projet est massivement rejeté, ce collectif No JO appelle ainsi à l'organisation d'un référendum à l'échelle des Alpes. JO 2030 référendum, c'était aussi une des pancartes et des banderoles qui étaient déployées sur ce rassemblement. Et un des mots d'ordre qui a été aussi soutenu lors du rassemblement de Chambéry, où là ce sont entre 200 et 250 personnes qui se sont rassemblées avec d'autres pancartes ainsi que les Alpes ne peuvent pas accueillir toute la richesse du monde. Dans le département des Hautes-Alpes, une cinquantaine de personnes, elles se sont réunies du côté de Briançon et 80 personnes du côté de la station de la Saulce, selon les informations recueillies par Mediapart. Allez, on part un petit peu au Brésil en avant-goût de ce prochain mois pour moi. Le président du Brésil, donc Lula, a promulgué à la fin de cette année 2023 une loi qui facilite l'autorisation des nouveaux pesticides dans son pays. Paquet empoisonné, les pacote do veneno, j'ai pas encore l'accent. C'est ainsi qu'on surnomme cette loi, qui va accélérer la procédure d'homologation des nouveaux pesticides. Une homologation qui devra s'effectuer dans un délai maximum de 2 ans, alors qu'on était dans une moyenne de 10 à 20 ans aujourd'hui. Cette mesure a d'ailleurs été demandée depuis 1999 par le secteur de l'agro-industrie, ô combien puissant au Brésil, secteur qui n'a cessé de faire pression sur le pouvoir. Le Brésil est en effet l'un des plus gros consommateurs de pesticides au monde. Il en a consommé à peu près 720 000 tonnes en 2021. C'est 20% de ce qui est commercialisé dans le monde quand même, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette loi est donc bloquée depuis très longtemps. Elle a été bloquée au Parlement du fait de ses conséquences sanitaires et environnementales. Et sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, lui situé à l'extrême droite de la politique, la loi est passée à deux doigts d'être approuvée. En effet, c'était en février de l'an dernier, en 2022. En février 2022, elle avait obtenu l'aval du Parlement, mais finalement avait été bloquée par le Sénat. Eh bien, le 28 novembre dernier, le Sénat est finalement revenu donc sur sa décision, suite à la demande de parlementaires qui défendent l'intérêt de l'agro-industrie. Le camp présidentiel, donc de Lula, nouvellement élu, aurait accepté ce texte en échange du soutien de ses parlementaires à la réforme d'un article de la Constitution qui lui plafonnait les dépenses publiques. Voilà, c'est un peu du marchandage visiblement. Le président Lula a malgré tout posé un veto à 14 alinéas de cette loi et retoqué plusieurs mesures, dont notamment une résolution qui cherchait à exclure l'ANVISA et l'IBAMA. Ce sont des agences nationales de surveillance sanitaire et de protection environnementale. Ouais, la mesure voulait les sortir carrément de la procédure d'homologation des nouveaux pesticides. Et bien là-dessus, donc, Lula a réussi à mettre son veto, tout en laissant passer la loi. Donc, à voir dans quelle mesure est-ce qu'il est en train de négocier ou est-ce qu'il un petit peu assouplit sa politique du côté de l'écologie. En tout cas, pour Greenpeace Brésil, la promulgation de ce texte de loi est une contradiction majeure pour ce président de gauche. Le 20 novembre 2023, Lula avait aussi annoncé la reprise de la politique nationale d'agroécologie et de production biologique, donc à l'opposé, qui avait été abandonnée, elle, par Jair Bolsonaro. Ce numéro d'équilibriste n'est donc pas le premier pour le président revenu au pouvoir. Ainsi, au mois de décembre dernier, on apprenait que le Brésil vendait aussi de nouvelles concessions aux géants pétroliers. Et on va parler de la grippe aviaire qui sévit maintenant depuis 2 ans, de manière assez discrète peut-être, mais en tout cas, après avoir tué des fous de bassin, des manchots, des otaries, des phoques et des dauphins, cette épidémie mondiale, donc qui est due au virus H5N1, touche maintenant les ours polaires. Une grippe aviaire donc qui n'en a plus que le nom. Le département de la conservation de l'environnement de l'Alaska, donc on est aux États-Unis, a confirmé cette nouvelle à la fin du mois de décembre, après avoir analysé les tissus d'un ours polaire qui a été retrouvé mort au mois d'octobre au nord de cette région arctique. C'est le premier cas d'infection de cet animal dans le monde, a expliqué le vétérinaire de l'État de l'Alaska, Bob Gerlach. L'ours polaire pourrait, selon ce scientifique, avoir été contaminé après avoir consommé ou approché de trop près un oiseau malade, donc de la grippe aviaire. Si un oiseau meurt de cette maladie, en particulier s'il reste dans un environnement froid, le virus peut demeurer un certain temps dans l'environnement. Il est possible que d'autres ours polaires aient donc succombé à l'épidémie sans avoir été repérés par les services vétérinaires, puisque cette région est très difficile d'accès. La grippe aviaire, due au virus H5N1, qui a démarré donc en 2021, a déjà tué des millions d'oiseaux sauvages, selon les estimations des scientifiques, mais on compte également des milliers de victimes parmi les mammifères, notamment des ours noirs et des ours bruns. Le virus se répand rapidement dans le monde, notamment via certains oiseaux migrateurs. On l'a ainsi détecté en octobre en Antarctique, désormais en Arctique. C'est horrifiant, déclarait Diana Bell, professeure émérite de biologie à l'université de East Anglia. Ce virus pourrait fragiliser une espèce emblématique, déjà menacée de disparition par la fonte de la banquise à cause du changement climatique. En effet, l'ours polaire est classé vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Allez, on termine bientôt ces nouvelles du monde avec 2 petites annonces. Tout d'abord, un rassemblement aura lieu à Nîmes demain. à l'appel de très nombreuses organisations politiques et syndicales ainsi que des associations, une mobilisation contre la loi immigration. Ça sera donc ce mercredi 10 janvier à 18h dans la salle des cheminots CGT, c'est au 15 rue Benoît Malon à Nîmes. Et pour signer cet appel, on trouve l'Association pour la promotion des travailleurs immigrants, la Confédération générale du travail, l'Union locale CGT donc, la CNT, Confédération nationale du travail, la coopérative des élus communistes, républicains et citoyens, Ensemble 30, Europe Écologie Les Verts, les écologistes, la France Insoumise, la FSU, Fédération syndicale unitaire, Génération, la Ligue des droits de l'homme, la Libre Pensée, le Mouvement de la paix, le Parti communiste français, le Parti de gauche, Parti socialiste, solidaire, Gauche républicaine socialiste et le Syndicat français des artistes CGT. Voilà, toutes ces associations, syndicats, partis politiques appellent donc leurs militants et plus largement tous les sympathisants à cet rassemblement en faisant leur déclaration nationale. Monsieur le Président, renoncez à la loi immigration qui porte atteinte fondamentale aux valeurs de notre République et qui va fracturer notre pays. Voilà, ils appellent ainsi l'ensemble des organisations de la société civile, toutes les forces progressistes et républicaines du côté de Nîmes, du Gard, mais plus largement aussi, à participer à ce meeting qui aura donc lieu demain à 18h dans la salle des cheminots. C'est au 15 rue Benoît Malon et c'est à Nîmes.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Voilà. Si vous avez encore un petit peu d'espoir et que peut-être France Travail ne vous a rien proposé d'intéressant, une autre petite annonce pour vous occuper ces prochaines semaines, prochains jours, prochains mois, c'est dans le Tarn. Et c'est dans Bastamag qu'on trouve le relais de cet appel. C'est la lutte contre contre l'autoroute A69, une lutte quand même trentenaire, continue de s'intensifier malgré les coups portés par le gouvernement. Voici donc un appel à créer une ZAD. Elle est lancée par les habitants de la Crème Arbre. C'est un lieu d'occupation qui se situe sur le tracé projeté de l'autoroute. On est sur la commune de Saïx, alors que le recours sur le fonds est prévu, lui, pour l'année 2025. Voici donc l'offre d'emploi. Bienvenue à la Crème Arbre, village au sol et dans les arbres, lieu de relations, d'ancrage, d'imagination, de lutte et d'adelphité. Là, on parle des relations solidaires et harmonieuses entre êtres humains, qu'ils soient hommes, femmes, animaux ou autres. Communauté d'être où explorer et incarner la fin de l'autoroute et son monde. L'année 2023 a été haute en couleurs dans le sud Tarn, alors qu'une lutte quotidienne se déployait contre le projet d'autoroute A69 prévu entre Toulouse et Castres, essayant de prendre de vitesse les recours en justice et nous mettre devant le fait accompli. NGE, Atosca, la région et l'État ont choisi d'accélérer les travaux. Porté par une large coordination de collectifs, les rassemblements de masse du mois d'avril, ça c'était sous le nom sortie de route, mais il y en a eu aussi en octobre avec l'appellation No Macadam, ainsi que les occupations et les grèves de la faim et de la soif, ont permis de visibiliser les oppositions locales, de mobiliser au niveau national et de structurer la lutte. Les abattages d'arbres qui ont été lancés en mars sur l'allée de platanes centenaires de la commune de Vendine se sont achevés en novembre par la destruction de la forêt de Sherwood. En moins d'un an, donc, l'entreprise NGE Atosca est parvenue à massacrer tous les écosystèmes forestiers du tracé de la 69. Tous, non. Encore un petit peu, quelques arbres résistent, et c'est notamment donc route de la Crémade à Saïx, à quelques enclavures de la Crème-ZAD qui avait été expulsée le 22 octobre, vous vous en souvenez peut-être. Et bien donc la Crème-Arbre résiste encore et toujours. C'est la dernière forêt qui tient encore debout sur le tracé de cette autoroute. Et c'est donc là qu'on vous invite à aller participer à cette ZAD. Si vous souhaitez lire un petit peu plus justement les fondements de la vie en commun sur une ZAD, je vous renvoie vers cet article. Et la fin dit ceci. Pour qu'ici s'arrête une fois pour toutes ce projet, et parce qu'il y a urgence, nous lançons un appel à toutes les personnes déterminées pour venir vivre et se joindre à la lutte sur le terrain. Toute idée et toute présence sont nécessaires et seront accueillies. Nous appelons notamment les savoir-faire de grimpe, donc savoir grimper, faire de l'escalade, certainement pour aller se mettre dans les arbres, mais aussi construction, soins, maraîchage, cuisine, création, communication, occupation et lutte autonome pour accélérer l'avancement des habitations au sol et dans les arbres, occuper et tenir le tracé, vivre et communiquer. On a hâte de vous rencontrer. Et voilà, c'est signé la Crème Arbre. Un appel que vous retrouverez, je pense, très facilement sur les réseaux sociaux. Et normalement, il y a un petit truc qui partait là. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre celui-là. Voilà, il est 13h, c'est la fin de ces Nouvelles du Monde, comme c'est quand même les premières de l'année. J'ai trouvé une petite chanson qui commence avec justement 2024. C'était les Ramones qui nous chantaient il y a bien longtemps de cela. « I wanna be sedated ». Voilà, c'est évidemment du second degré. On vous souhaite tout sauf de la sédation pour cette année 2024. Quant à nous, on se retrouve donc jeudi pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien, couvrez-vous bien, parce que ça y est, il caille enfin. Et c'était pas trop tôt, voilà. Allez, bye bye et bonne fin de journée.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.